Le 19 mai 1998, une tragédie frappe l'école secondaire de Lincoln County. La petite localité de Fayetteville est sous le choc quand la vague de violence dans les écoles déferle sur elle. Le procureur local se battra pour que la raison et la justice triomphent en dépit de la controverse qui entoure cette affaire. Petite localité de Fayetteville, au Tennessee, un étudiant brillant subit un procès pour meurtre. La défense en appelle avec habileté à la clémence. Mais le procureur, de même que le chef du service de police de la ville, tiennent à ce que le coupable soit puni pour son crime.
Pour moi, une école est un sanctuaire, exactement comme l'est une église. C'est là que les enfants vont pour apprendre. Et s'ils ne peuvent y être en sécurité, où le seront-ils? Quand un malheur comme celui-ci arrive, la justice doit agir promptement. Il faut être clair. On ne peut tolérer que des enfants trimballent des armes avec eux à l'école pour tuer d'autres enfants.
Le 19 mai 1998. Il ne reste que 3 jours avant la remise des diplômes de l'école secondaire de Lincoln County à Fayetteville, au Tennessee. Plusieurs soirées et célébrations ont été prévues pour souligner cet événement. Les finissants ont hâte de terminer l'école secondaire. Malheureusement, ce jour-là, une tragédie anéantit leur enthousiasme. Un peu après 14 heures, le service de police de Fayetteville reçoit un appel de la secrétaire de l'école. Elle déclare qu'un étudiant a été abattu de plusieurs coups de feu dans l'aire de stationnement et que le tireur est toujours sur les lieux. L'enquêteur Bill Wood de la police de Fayetteville est le premier à arriver sur la scène du crime. À son arrivée, l'enquêteur Wood voit un jeune homme étendu par terre. Un professeur lui dit que la victime s'appelle Nick Creason. Il a reçu plusieurs projectiles. Il semble inconscient. Un autre professeur informe Wood que l'étudiant qui a fait feu s'appelle Jacob Davis et qu'il est assis par terre non loin de là. Un membre du corps enseignant a récupéré son arme. Wood met Davis en état d'arrestation.
Jacob ne montrait aucune émotion. J'avais la main posée sur lui et il ne tremblait pas. Il ne pleurait pas non plus. Il ne semblait pas perturbé du tout. Je lui ai demandé quel âge il avait. Il m'a répondu qu'il avait 18 ans. Je lui ai fait la lecture de ses droits et je lui ai demandé s'il avait une déclaration à faire. Il a dit « Je veux seulement un avocat ».
À 18 ans, Jacob Davis vient tout juste de devenir adulte aux yeux de la loi. Si la victime meurt, il sera inculpé du crime le plus grave qui soit. Mais si le meurtre s'était produit quelques mois plus tôt, il aurait été considéré comme un mineur. Le personnel des urgences fait l'impossible pour sauver la vie du jeune homme. Mais ses blessures internes sont graves. L'un de ses poumons est perforé et une artère a été sectionnée. Quand son pouls se met à ralentir, le personnel est impuissant à le maintenir en vie plus de quelques instants. Plus tard, Wood se rend à l'hôpital pour s'enquérir de l'état du jeune homme.
Quand je suis arrivé, bien entendu, j'ai appris que le jeune homme était mort. Il avait reçu plusieurs projectiles.
Après le décès de Nick Creason, l'enquêteur recueille ses vêtements et ses effets personnels et les conserve à titre d'indice. C'est le médecin légiste Charles Harlan qui fait l'autopsie de la victime.
Chacune des blessures de projectiles qui avaient causé la mort de Nick Creason lui avait été fatale. La blessure la plus importante avait été produite par un projectile ayant traversé le cœur, le poumon droit, l'artère pulmonaire et l'aorte. C'était une blessure qu'on ne pouvait malheureusement pas réparer chirurgicalement.
Jacob Davis est accusé de meurtre au premier degré, de port d'armes dans un établissement scolaire et de mise en danger d'autrui avec une arme. Celui-ci refuse toujours de faire une déclaration. L'enquêteur Wood interroge plusieurs témoins, notamment une douzaine d'étudiants qui l'ont aidé à reconstituer les événements de ce tragique après-midi. Un des témoins est l'étudiante Susie Wilkins, une amie de Nick Creason. Elle a eu le malheur d'assister au crime et d'en voir les moindres détails. Elle raconte qu'elle marchait avec Nick et qu'il se rendait à sa camionnette. C'est à ce moment-là qu'est arrivé Jacob Davis, qui a pointé sa carabine en direction de Nick. Susie ajoute qu'il a fait feu à trois reprises. Après le premier coup de feu, Nick a vainement tenté de se protéger avec ses livres. L'instructeur d'atelier Ricky Bryant était également sur les lieux. Pendant qu'un étudiant se précipitait aux côtés de la victime, Bryant s'est emparé de la carabine pour empêcher Jacob Davis de tirer sur quelqu'un d'autre. Les témoins déclarent que Jacob Davis n'a pas dit un mot pendant tout le drame. Quand il a terminé de tirer, il s'est assis et a attendu l'arrivée des policiers. Après le meurtre, les enquêteurs trouvent plusieurs indices dans la voiture de Jacob Davis, notamment un mot écrit de sa main. Le mot est adressé à ses amis, à sa famille, à Carol et aux autres. Dans le premier paragraphe, Jacob écrit « Je ne sais pas ce qui va m'arriver ce soir. Je présume que cette lettre sera une lettre d'adieu si quelque chose devait m'arriver et si je n'avais pas l'occasion de parler à ceux que j'aime. » Il poursuit en exprimant son affection pour sa famille et ses amis. Mais il s'adresse plus particulièrement à une certaine Carol. L'enquêteur Wood retrouve Carol Taylor, une finissante de l'école secondaire de Lincoln County. Il ne tardera pas à découvrir que la jeune femme est au cœur même de toute cette tragédie. Lors de son interrogatoire, Wood apprend que Jacob et elle se fréquentent depuis environ 6 mois. Ils ont fait connaissance au restaurant où ils travaillaient tous les deux. Jacob est si épris de Carol qu'il a refusé une bourse d'études de l'Université d'État du Mississippi, préférant rester auprès d'elle et étudier au collège communautaire de l'endroit. Carol dit à l'enquêteur qu'avant de fréquenter Jacob, elle avait une relation avec la victime, Nick Creason. Elle déclare que pendant qu'elle fréquentait Jacob, elle a secrètement passé le jour de la Saint-Valentin avec Nick et a eu une relation sexuelle avec lui. Jacob a fini par l'apprendre. Selon Carol, il y avait une tension palpable entre les deux jeunes hommes au cours des mois qui ont précédé le meurtre. Bien qu'il n'en soit jamais venu au coup, les deux jeunes hommes se sont affrontés à plusieurs reprises, à l'école et ailleurs. Carroll parle à l'enquêteur Wood d'un incident qui s'est produit la veille du meurtre. Pendant que Jacob et elle achetaient un test de grossesse, elle lui a fait des aveux. Elle lui a dit qu'elle a acheté un autre test de grossesse quelques mois plus tôt, car elle croyait qu'elle était peut-être enceinte de Nick Creason. Selon Carroll, Jacob Davis a eu alors une réaction émotionnelle très intense. Avec ses aveux, Carroll lui a montré que sa liaison avec Nick était plus sérieuse qu'elle le lui avait laissé croire. Jacob s'est calmé peu à peu et Carroll et lui ont eu à nouveau une relation sexuelle pendant la soirée. Selon Carroll, le jour du meurtre, Jacob a affronté Nick alors que la jeune femme et lui se rendaient à leur cours de mathématiques. Carroll, qui a senti que la situation pouvait s'envenimer, est intervenue. En se basant sur les informations obtenues de Carroll Taylor, ainsi que celles de plusieurs autres témoins, l'enquêteur Wood reconstitue les événements qui ont mené à la tragédie.
Jacob vivait à 20 km de l'école, à Sourston. Il a quitté l'école et rentré chez lui. A pris la carabine et les munitions et il est retourné à l'école. Avant d'arriver, il s'est garé au bord de la route et il a rédigé la lettre qu'on a trouvée dans la voiture.
À 14 heures, Jacob Davis revient à l'école. Dans moins d'une heure, Nick Creason sera mort. Trois jours après le meurtre, Davis est traduit en justice à Lincoln County pour notamment meurtre au premier degré. C'est le procureur général Mike McCown qui est chargé de la poursuite.
C'était une affaire très difficile au plan émotionnel parce que c'était arrivé dans ma ville et que je connaissais beaucoup de gens de l'école qui étaient pris par cette affaire au plan émotionnel. J'ai écouté plusieurs d'entre eux. Ils m'ont parlé de ce qu'ils ressentaient par rapport à tout ça et ce qui, selon eux, devait être fait.
Le jour du meurtre, l'avocat de la défense, Ray Fraley, reçoit un appel du père de Jacob Davis.
Son fils était détenu. Il voulait que j'aille le voir en prison. En lui parlant, j'ai tout de suite su qu'il avait besoin d'aide. Je l'ai fait sortir de sa cellule et je l'ai conduit dans la bibliothèque de la prison où l'on a parlé pendant environ une heure. Je n'ai pas pu tirer grand-chose de lui parce qu'il était en état de choc. J'avais juste envie de rester auprès de lui et de le réconforter. Je voulais qu'il sache que dans cette tragédie, quelqu'un allait l'accompagner dans chacune des étapes par lesquelles on passe dans ce genre d'affaires.
À titre d'avocat de Jacob Davis, la première préoccupation de Ray Fraley est de s'assurer que l'État ne cherchera pas à le faire condamner à mort.
J'ai alors rencontré le procureur local, Mike McCown, qui est un ami à moi. Il subissait beaucoup de pression de tout le pays à cause de cette situation.
Pour demander la peine de mort au Tennessee, l'affaire doit répondre à un seul des 13 critères prévus par la loi. Ces critères incluent notamment qu'il y ait plusieurs victimes ou que celles-ci fassent partie des forces de l'ordre ou qu'elles soient des juges.
Étant donné les circonstances, je pensais qu'il s'agissait d'un cas de prison à vie plutôt que d'un cas de peine de mort.
La partie poursuivante s'entend donc avec la défense sur le fait qu'elle ne cherchera pas à obtenir la peine de mort. Les parties s'entendent également pour sélectionner les membres du jury parmi des gens qui vivent à l'extérieur du comté. Fayetteville, au Tennessee, est situé à 130 km au sud de Nashville et à 50 km au nord de l'Alabama. La population de Fayetteville compte environ 7500 personnes. Dans cette petite ville, tout le monde est au courant de la tragédie qui a frappé l'école secondaire de Lincoln County. Trouver des jurés impartiaux qui n'ont pas entendu parler de ce cas ne sera pas une mince affaire.
Mac McCown, le procureur et moi-même étions d'accord sur le fait qu'il serait pratiquement impossible de se constituer un jury composé d'habitants de Lincoln County. Toute la communauté est centrée autour de cette école secondaire. Plusieurs personnes étaient directement mêlées à cette affaire, en ce sens qu'un de leurs enfants pouvait avoir assisté au meurtre ou qu'ils étaient enseignants dans cet établissement. C'était une situation très délicate, à la fois pour le procureur et pour moi.
Les jurés seront transportés en autobus depuis Dixon County. On a choisi cette localité parce qu'elle ressemble à Lincoln County d'un point de vue géographique, social et économique. La veille du procès de Jacob Davis, le jury est convoqué au palais de justice de Lincoln County. Les membres seront séquestrés pendant toute la durée du procès. Le procès s'ouvre le 26 juillet 1999. Il s'est écoulé un an et deux mois depuis le meurtre.
Dans cette affaire, je ne percevais pas Jacob Davis comme un accusé. Il était bien mis en accusation, mais c'était un jeune homme qui avait besoin d'aide. C'était un jeune homme qui n'avait jamais eu de tel comportement, et rien dans son passé ne laissait croire qu'il commettrait un autre crime. C'était un événement isolé.
Il y avait plus d'une victime dans cette affaire, et je crois que plusieurs personnes considéraient que Davis en était une lui aussi. Mais il avait choisi de faire sa propre loi et de tuer quelqu'un. Il m'était très difficile d'éprouver de la pitié pour lui.
Le jury apprendra donc les circonstances qui ont mené au meurtre, l'état psychologique dans lequel se trouvait Jacob Davis, et plus important encore, pourquoi il a assassiné son camarade de classe.
All rise. The court of the Honorable Judge Charles Lee is now in session.
Be seated. The state of Tennessee versus Jacob Davis. Mr. McGowan, your opening statement, please.
Yes, sir. Thank you, Your Honor.
Le procureur Mike McCown commence son introduction en indiquant aux membres du jury qu'ils sauront bientôt que le meurtre de Nick Creason était prémédité.
In order to...
Au Tennessee, pour faire reconnaître quelqu'un coupable de meurtre au premier degré, on doit prouver que l'homicide était volontaire, intentionnel et prémédité. Le 19 mai 1998, plusieurs événements indiquaient que Davis avait l'intention de s'en prendre à Creason.
Mike McCown ajoute que Davis avait toutes ses facultés lors de la fusillade. Pour la partie poursuivante, ce meurtre est un cas classique d'amant jaloux emporté par la violence. Dans sa déclaration d'ouverture, Ray Frehley déclare que Jacob Davis souffrait de capacités intellectuelles amoindries. Frehley ajoute que son client était sujet à une dépression sévère, qu'il dormait très peu au cours des mois qui ont précédé le meurtre et qu'il aurait même entendu des voix. Les capacités intellectuelles amoindries ne sont pas à confondre avec l'aliénation mentale.
Quand on démontre qu'un prévenu souffrait d'aliénation mentale, celui-ci peut être exonéré de ses crimes. On dira qu'il est innocent pour cause d'aliénation mentale. Mais quand on déclare que le prévenu souffrait de capacités intellectuelles amoindries, ce n'est pas un argument qui permettra d'éviter un verdict de culpabilité. Ça signifie seulement que le jury pourra prendre ce fait en considération pour déterminer si le meurtre a été prémédité et s'il s'agit d'un homicide au premier degré.
Pour la défense, il ne s'agit pas d'une simple affaire de jalousie. Il s'agit plutôt du cas d'un jeune homme déséquilibré qui a fini par perdre le contrôle. Frehley affirme que son client ne devrait pas être reconnu coupable de meurtre au premier degré, mais plutôt de meurtre au second degré ou d'homicide involontaire. De nombreux étudiants témoignent lors de ce procès. Le témoignage le plus attendu est celui de la jeune femme qui s'est retrouvée au cœur de cette tragédie. Carol Taylor.
To tell the whole truth and nothing but the truth, so help you God.
Yes, I do.
Le procureur interroge Carol à propos de ses relations avec le prévenu et la victime. Carol raconte au jury comment Jacob Davis a appris qu'elle avait eu une aventure avec Nick Creason. La nouvelle de cette aventure s'est propagée 2 mois avant le meurtre, pendant le cours de physique de Madame Roberts. Un ami de Jacob a alors entendu les étudiants discuter de cette affaire avec le professeur. Jacob n'a pas tardé à apprendre la nouvelle à son tour. Au cours de cet après-midi-là, Jacob et Carol discutent âprement dans l'aire de stationnement de l'école. La dispute s'est terminée 4 heures plus tard quand Jacob a remis une lettre à Carol. C'est la première de 3 lettres écrites par le prévenu qui seront lues aux membres du jury pendant le procès. La partie poursuivante espère que cette lettre convaincra le jury que le meurtre de Nick Creason était prémédité. Elle a été écrite 2 mois avant le meurtre.
I don't deserve this, Carol. From the beginning, I have given you nothing but my all. And for what? To be with you. That is all I have asked. I'm faithful. I'm true. I'm honest. My heart screams, how could you? And you talk about your night at work. I bleed, and for that he should bleed as well. My friends say I should take this anger out on you. You know as well as I do I can't do that. It must go somewhere. Thus this letter.
Jacob Davis poursuit en disant à Carol à quel point il l'aime et combien il l'a déçu. Pour le procureur Mike McCown, les paroles violentes de Jacob à l'endroit de Nick Creason indiquent que son crime était prémédité.
C'était environ 60 jours avant le meurtre. Ça nous indiquait une chose. Il avait effectivement eu des pensées violentes bien avant de commettre le meurtre.
Mais la même lettre peut être interprétée de façon complètement différente. La défense, elle, y voit autre chose.
À mon sens, la lettre montrait la détérioration de l'état de mon client, ce qui soutenait mon jugement selon lequel il avait souffert de capacités intellectuelles amoindries et ne pouvait pas avoir prémédité le meurtre.
Le procureur croit que l'accusé se contrôlait parfaitement quand il a abattu la victime. Il espère que le témoignage de Carol Taylor permettra d'étayer sa position.
Did you see any great change in him at all during the months of April or May of that year?
He seemed happier.
Happier?
Yeah, happier.
Carol déclare qu'au cours des mois qui ont précédé le meurtre, la colère de Jacob semblait s'être dissipée. Elle parle de l'incident de la pharmacie. Elle dit que Jacob s'est remis rapidement après qu'elle lui a raconté avoir déjà acheté un test de grossesse à la suite d'une relation sexuelle avec Nick Creason. La partie poursuivante interroge ensuite Carol à propos des nombreuses fois où elle a rendu visite à Jacob en prison après le crime. On espère que ce qu'elle dira de ces visites montrera à quel point Jacob avait l'air sain d'esprit peu de temps après le meurtre. Qu'il était conscient de ce qu'il avait fait et qu'il n'affichait aucun remords.
And during any of these visits that you went to see the defendant Jacob Davis, did you ever ask him why he shot Nick Creason?
Yes.
What did he say?
He said, "You know why, but I can't tell you. I can't say."
Lors du contre-interrogatoire, l'avocat Ray Frehley de la défense essaie d'obtenir de Carol Taylor un portrait très différent de Jacob Davis. Il demande à Carol de lui parler de la soirée précédant le meurtre, au cours de laquelle Jacob et elle sont allés à la pharmacie pour acheter un test de grossesse.
When you got to the store, you mentioned to Jacob that you had been there before for one of these tests. And you had been with Nick Creason sometime before?
Yes.
What you didn't tell the jury, I don't think you left it out on purpose, you weren't asked. Jacob Davis collapsed on the floor.
Yes.
And cried.
Yes.
Uncontrollably.
Yes.
Why would you bring up his name?
Ray Frehley se sert du témoignage de Carol Taylor pour soutenir le fait que Jacob souffrait d'insomnie avant le meurtre.
During this period of time after this march, there is no question in your mind, is there, that he was absolutely sleep-deprived?
No.
You could see it. He was getting haggard, wasn't he?
Yes.
You were concerned about his health?
Yes.
So this young man, on the night of the pregnancy test, and the episode that you have described at your house, went home, and you met him the next morning at 7 or so?
Yes.
Again, he hadn't had any sleep, had he?
No.
At Shoney's and with you, he seemed to be all right.
Yes.
Sort of a security, wasn't it?
Yes.
Then we went to the first exam, which is physics.
Yes.
And did you have that class with him?
Yes.
He didn't even take the exam, did he?
No.
The same young man who on the night before was out of control, crying, shaking, begging you, wrote a letter.
Yes.
All of these things were happening in his life. Uncontrollable bouts of crying and shaking at various times, including the times that were not mentioned in the car with him, where he would just lose it. All of these times were times that Mr. McCown expressed to you were times of utter happiness for Jacob Davis.
Yes.
That wasn't so, was he?
No.
Did he seem fine?
He seemed fine. When he left, he was fine. Mm-hmm. Said he was okay.
L'enseignante Tiffany Roberts de l'école secondaire de Lincoln County est alors appelée à la barre. Elle enseignait à la victime dans un autre groupe que celui de Carol et Nick. La nouvelle de leur aventure s'est d'abord propagée lors d'un de ses cours. Roberts déclare que le matin avant le meurtre, Jacob Davis est venu passer son examen final de physique. Après lui avoir remis l'examen, il a rédigé une lettre de 2 pages qu'il lui a donnée. Elle l'a lue plus tard le même jour. Il commençait par y exprimer son insatisfaction à propos du système d'éducation.
Knowledge leads me to question the word bestow. The education system in this country, this state, verified this country is quite simply a farce. For the past 12 years, I have simply been bored.
Jacob accuse ensuite Roberts d'avoir été partie prenante au commérage sur Carol Taylor et Nick Creason.
But you dealt me a very devastating personal insult earlier this year by discussing my personal life with that Nicholas Creason. You were a large part of the greatest pain I have ever known, a pain which nearly caused me to take my own life.
Tiffany Roberts déclare qu'après avoir lu cette lettre, elle l'a aussitôt envoyée au directeur de l'école, Jim Stewart. Celui-ci a tenté de retrouver Jacob, mais en vain. Il était déjà parti chez lui pour aller chercher la carabine. On lit ensuite la 3e lettre à voix haute pour que les membres du jury puissent en connaître le contenu. C'est l'enquêteur Bill Wood qui est appelé à la barre. Presque toute la lettre est adressée à Carol et fait état de la haine de Jacob à l'égard de Nick.
All I ever wanted was to love and be loved by you. I gave you everything. And it is so sad that you could not return my devotion. So now I cut myself from that. I lust to kill him.
La partie poursuivante et la défense se sont toutes deux servies des lettres de Jacob pour soutenir leurs arguments.
Les lettres étaient différentes les unes des autres, mais à mon avis, elles montraient la détérioration de l'état mental de Jacob, ce qui soutenait l'argument des capacités intellectuelles amoindries. L'État a, pour sa part, utilisé ces lettres pour montrer la rage aveugle de Jacob Davis. Ces lettres étaient sans contredit une épée à deux tranchants. C'était indéniable.
Selon la défense, la détérioration de l'état mental de Jacob a entraîné celui-ci à commettre le meurtre. Quant au procureur, il affirme que le crime a été motivé par la jalousie du jeune homme. Maintenant, les experts sont appelés à la barre. Le destin de Jacob dépendra de l'opinion que se font les jurés en les entendant témoigner. Bien qu'il y ait eu de nombreux témoignages chargés en émotion au procès de Jacob Davis, le fond de l'argument de la défense est plutôt d'ordre scientifique. Le prévenu souffrait de capacités intellectuelles amoindries et il ne pouvait pas commettre un meurtre prémédité. Le témoin clé de la défense est le psychologue pour enfants William Kenner de Nashville. Kenner a rencontré Jacob Davis un an avant le procès.
William Kenner est un psychologue de renom et il est particulièrement qualifié dans le champ des capacités intellectuelles amoindries. Il était d'avis, tout comme moi, qu'il s'était passé quelque chose pendant l'enfance de Jacob. Une fois prise en considération toutes les circonstances de la vie du jeune homme, il pouvait affirmer qu'il souffrait de capacités intellectuelles amoindries.
Au procès, tous ces gens ont témoigné. Les experts disaient que le prévenu souffrait de capacités intellectuelles amoindries, mais l'État disait que ce n'était pas le cas. C'est devenu une question de fait pour le jury et les membres ont dû prendre leur décision en se basant sur le témoignage des psychiatres.
Plusieurs mois avant le procès, Kenner a donc rencontré Jacob Davis en prison. La défense lui a demandé de poser un diagnostic. Selon William Kenner, Jacob souffrait de dépression majeure avec caractéristiques psychotiques, ce qui signifie qu'il entendait des voix.
Les sujets atteints de dépression majeure entendent souvent des voix comme Jacob en entendait. Dans son cas, comme dans bien d'autres, il ne s'agissait pas d'un personnage important comme Dieu qui lui dictait de faire telle ou telle chose. C'était plutôt comme un chœur de la tragédie grecque qui lui marmonnait continuellement qu'il n'était qu'un bon à rien. Quand il était contrarié et que la situation devenait trop difficile, les voix devenaient de plus en plus fortes.
Quand la défense affirme que Jacob entend des voix, la partie poursuivante est décontenancée.
C'était la première fois qu'on entendait parler de ces voix. Ça ne figurait pas dans les rapports et on n'en a jamais entendu parler avant que cet expert soit appelé à la barre et atteste que le prévenu entendait des voix.
Kenner poursuit en déclarant qu'il y a eu plusieurs cas de dépression grave dans la famille de Jacob Davis. Une de ses tantes s'est suicidée. Frehley demande à l'expert si les émotions qu'éprouvait Davis étaient intenses au point qu'il aurait pu être déconnecté de la réalité. Kenner répond que ses émotions étaient très intenses. En outre, il avait du mal à les contrôler en raison de sa psychose. La partie poursuivante tente de réfuter l'argument des capacités intellectuelles amoindries en présentant la psychiatre Rokia Farouk du Tennessee Mental Health Institute. Selon la psychiatre Rokia Farouk, Jacob Davis pouvait avoir commis le crime de façon préméditée parce que sa dépression n'était pas assez sévère pour l'empêcher de faire la distinction entre le bien et le mal.
Les experts présentés par l'État étaient d'accord sur plusieurs points que j'avais avancés. Mais ils n'étaient pas d'accord sur la gravité de sa dépression. Ils avaient toutefois évalué son état mental environ un an et demi après le crime.
La défense indique que les psychiatres de l'État basent leur témoignage sur des évaluations qu'ils ont faites un an et demi après le crime et après que Jacob a été soigné par les psychiatres de la prison. Quant à l'argument qui repose sur le fait que Jacob entendait des voix, Rokia Farouk confirme que c'est effectivement un symptôme que l'on observe dans certains cas.
Ils n'ont pas nié, à titre d'expert de l'État, que Jacob était victime d'un traumatisme émotionnel. Mais ils ne pensaient pas pour autant qu'il avait eu des capacités mentales amoindries.
L'avocat de la défense, McGee, conclut son contre-interrogatoire en remettant en question le témoignage de la psychiatre Rokia Farouk sur le fait que la dépression de Jacob Davis n'était pas grave. Il lui indique qu'elle a elle-même prescrit un antidépresseur à Jacob Davis lorsqu'elle l'a évalué. La psychiatre répond que l'antidépresseur prescrit peut également traiter une dépression légère. En réponse à tous les arguments de nature psychologique de la défense, la partie poursuivante a basé son argument sur des preuves matérielles et des déclarations provenant de témoins oculaires pour établir que Jacob Davis aurait passé plusieurs mois à penser au meurtre qu'il allait commettre. La partie poursuivante s'est basée sur les lettres que Jacob Davis a écrites et qui pourraient indiquer que le prévenu avait prémédité son crime. Selon le procureur, même le jour du meurtre, le prévenu a eu assez de temps pour remettre en question son projet, alors qu'il a parcouru 40 km aller-retour pour aller chercher la carabine qu'il allait utiliser pour commettre le crime. La partie poursuivante dispose de preuves selon lesquelles il aurait ensuite attendu pendant 20 minutes avant de surprendre Nick Creason. Puis, il a commis le crime. Ensuite, il a rechargé son arme. Et il l'a rechargé de nouveau. Lors de sa plaidoirie finale, l'avocat de la défense, Ray Fraley, déclare au jury que ce meurtre était une tragédie entre adolescents. Il presse le jury de ne pas reconnaître Jacob Davis coupable de meurtre au premier degré.
He's not innocent. He's guilty of killing Nick Creason. But we submit that he is not guilty of first-degree murder.
Peu de temps après avoir entendu les plaidoiries finales, le jury entre en délibération. Il pourrait reconnaître Davis coupable d'homicide délictueux, de meurtre au second degré ou de meurtre au premier degré. Après une semaine de témoignages, le sort de Jacob Davis repose maintenant entre les mains des jurés. Jacob Davis, un brillant étudiant, est accusé du meurtre de son camarade de classe, Nick Creason. Son destin est entre les mains des jurés qui doivent décider s'il est coupable d'homicide délictueux, de meurtre au second degré ou de meurtre au premier degré.
Yes, we have, Your Honor.
Will the defendant please stand?
We, the jury, find Jacob Davis guilty of first-degree murder.
Le jury n'a délibéré que 4 heures avant de rendre son verdict. Les procureurs obtiennent ce qu'ils voulaient. Le jury déclare Jacob Davis coupable de meurtre au premier degré. Quant à la défense, elle obtient une petite victoire. Jacob Davis aura droit de demander une libération conditionnelle. Selon la loi au Tennessee, sa peine d'incarcération minimale est de 51 ans. Davis sera alors âgé de 70 ans.
Mr. Foreman, members of the jury, the state of Tennessee thanks you for your contribution to this case. You are excused.
Malgré cette petite victoire, l'avocat de la défense, Ray Fraley, est déçu du verdict et de la sentence.
C'est très sévère. Pour moi, c'est incroyable de penser que Jacob Davis, un garçon de 18 ans, restera plus de 50 ans en prison. Mais c'est la loi.
Le procureur Mike McCown ne partage pas cette opinion.
Pour Nick Creason, c'est l'éternité qui est son lot. La peine que Davis lui a imposée ne prévoit pas de libération conditionnelle, et contrairement à Davis, le gouverneur ne pourra jamais commuer sa peine. Il est mort pour l'éternité.
Jacob Davis purge actuellement sa peine dans une prison du Tennessee. Quand on lui a demandé ce qu'il aimerait dire aux parents de la victime, voici ce qu'il a déclaré.
Je ne peux d'aucune façon comprendre ce à travers quoi ils sont passés. Mais pour autant que je sache, et dans la mesure de ma compréhension, je suis désolé. Je ferais n'importe quoi pour revenir en arrière. Je n'ai jamais voulu que pareille chose arrive. Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé, c'est bien arrivé. Et je suis responsable. Je ferai absolument n'importe quoi pour effacer le passé.
Après le procès, Mike McCown déclare à la presse qu'il espère que la peine sévère imposée à Jacob Davis enverra un message clair. La société ne tolère pas que des armes soient apportées dans des écoles. Bien que McCown ait envoyé ce message, il n'a malheureusement pas été entendu. La tragédie de l'école Lincoln County a depuis été éclipsée par d'autres cas de fusillade encore plus graves dans des écoles. L'un de ces cas s'est produit seulement 2 jours après le meurtre de Nick Creason. À Springfield, en Oregon, un étudiant du nom de Kip Kinkle a abattu ses parents. Il est ensuite allé à l'école où il a fait feu sur plusieurs élèves. Et le 20 avril 1999, 2 étudiants sont entrés dans l'école secondaire Columbine à Littleton, au Colorado, et ont ouvert le feu, tuant 12 étudiants et un professeur. Il s'agit de l'une des fusillades les plus importantes à être survenue dans une école américaine. Aujourd'hui, Phyllis Davis, la mère de Jacob, travaille au même restaurant où elle travaillait avant le meurtre. Elle essaie toujours de comprendre ce qui est arrivé à Jacob au cours de ses 2 années d'études à l'école de Fayetteville.
Je me sens extrêmement coupable parce que je me fermais les yeux sur l'état de Jacob. On ne voyait pas ce qu'il éprouvait. Et je crois que la responsabilité la plus importante des parents est de savoir comment leurs enfants se sentent. On ne laisse pas la télé élever nos enfants. On ne les laisse pas à leur ordinateur. On ne peut pas compter sur l'école pour élever nos enfants. Il faut être attentif à leur état. Et pendant ces 2 ans, on n'a rien vu. On ne savait pas du tout ce qu'ils traversaient.
Le crime de Jacob Davis a fait plusieurs victimes. Il a profondément ébranlé la population et causé la mort d'un jeune homme à l'avenir prometteur. Quant à Davis, il devra purger au moins 51 ans de prison. Le procureur général local, Mike McCown, a remporté sa cause. Mais en fin de compte, il n'y a pas vraiment de gagnant lors d'une tragédie pareille.